André Méa, lors d'une précédente rencontre, nous avons un peu parlé de vous, nous avons parlé de votre vie, très peu de votre vie intellectuelle, mais enfin nous savons que vous êtes universitaire, que vous êtes professeur de grec, et nous avons appris que vous êtes devenu charismatique. J'aimerais vous demander aujourd'hui, comment s'est produit cette évolution vers le charismatisme? Enfin, vous nous avez dit que vous aviez déjà rencontré des charismatiques pentecostiques, n'est-ce pas? Mais vous-même, n'est-ce pas? Comment s'est fait cette évolution? Comment s'est fait cette conversion? Est-ce que ça s'est produit brutalement, comme la conversion de Claudel, par exemple, au pilier de Notre-Dame? Est-ce que vous, n'est-ce pas, vous pouvez dire aussi la même chose? Est-ce que c'est une conversion qui est marquée, n'est-ce pas, lors au pilier de Saint-Pierre de Rome?
Oui et non. Ça dépend de ce que vous appelez devenir charismatique. Et puis finalement, le mot être charismatique, ça signifie pas grand-chose, n'est-ce pas ? Il y a une prière charismatique, j'ai employé le mot parce que tout le monde l'emploie. Bon, parce que comment peut-on être charismatique ? Mais enfin, si vous voulez, pour moi, ça s'est passé en trois étapes principales. De 73 à 75. Première étape... Alors, je laisse de côté toutes les préparations antérieures, tout ce qui certainement a joué son rôle à un moment, les différentes rencontres que j'ai eues avec le Seigneur, toute l'histoire de ma prière.
Les amitiés, tout ça, dont nous avons un peu parlé d'ailleurs.
C'est ça. Bon, mais trois étapes. Premièrement, à Pittsburgh, où pour la première fois, j'ai été dans une réunion charismatique. J'ai entendu parler en langue, ce que j'ai considéré comme important, non pas comme essentiel, mais comme important. Et j'en suis revenu avec le salut par lequel on m'avait accueilli, praise the Lord, louer le Seigneur. Effectivement, à partir de ce moment-là, j'avais envie de louer le Seigneur. J'ai passé l'année je fréquentais à la fois deux groupes de prière à ce moment-là, dont l'un avec des protestants, et nous sommes venus tout de suite à la parole de Dieu, et nous avons étudié les psaumes. Étudier les psaumes, mais j'avoue que c'était décevant, n'est-ce pas? Je n'en louais pas mieux le Seigneur pour ça. Je restais sur ma faim, parce que c'était encore une étude et que la part de la prière était un peu restreinte. La deuxième étape, c'est au bout d'un an, non pas dans ce groupe de prière, mais dans un petit groupe qui était dans le village de montagne où je passe mes vacances, que j'avais rencontré un peu par hasard, qui était d'un style très classique, spiritualité classique. Il était animé par un garçon qui depuis est entré chez les Carmes. C'est une certaine voix. Un jour, il nous a invités tous à méditer silencieusement sur la parole de l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe, et celui qui m'ouvrira, je serai avec lui et lui avec nous prendrons notre repas, lui avec moi. Et alors là, c'est peut-être le moment décisif. Alors là, oui, il y a eu quelque chose. J'ai retrouvé avec plus d'intensité encore, ce que j'avais éprouvé près de 30 ans auparavant, le sentiment que la présence de Dieu, très exactement, alors plus précisément, la présence de Jésus-Christ. Je disais la présence de Dieu, à partir de ça, je dirais la présence de Jésus-Christ, il est là, oui.
Quelle différence êtes-vous?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, non, c'était Dieu le Père. Au lieu que Jésus-Christ, je suis Dieu le Père, je lave les yeux pour lui parler. Jésus-Christ, c'est lui avec moi, moi avec lui.
Il y a une certaine tendresse, si je peux dire.
Davantage. Lui, il veut aussi, dans les rapports avec Dieu. Avec Dieu Père. Mais enfin oui, il y avait, si je veux faire une différence, c'est celle-là, n'est-ce pas ? Et la parole qui m'était adressée était effectivement une parole de Jésus-Christ, car celui qui frappe à la porte, n'est-ce pas, dans le début de l'Apocalypse, c'est très net, n'est-ce pas ? Et évidemment, ça m'a touché d'autant plus que je savais que ça succédait à la fameuse malédiction que je m'appliquais avec beaucoup de raison, « Tu es tiède, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » cette image, je l'ai revécue, je l'ai revécue longtemps. Je lui ai dit, Seigneur, c'est pas appétissant chez moi. Il y a des toiles d'araignée, ça traîne, il y a des odeurs de graillon. Entre, Seigneur, et comble-moi, tu me combleras si tu veux. Et puis il est entré. Et puis il était là, quoi. Et puis je n'en doutais pas. Bon, ça, si vous voulez, c'est. C'est peut-être le moment décisif. Et pendant toutes les réunions de prière auxquelles j'ai assisté ensuite l'année, non plus avec les protestants, pour des raisons que je l'ordre citer, ça n'a pas continué comme cela, mais dans un groupe vraiment de prière qui s'orientait de plus en plus vers la demande des charismes, et qui a reçu à la même époque, n'est-ce pas, c'est en rentrant de vacances que j'ai appris qu'il y en avait eu un qui avait reçu le don des langues, l'autre le don de prophétie, etc. C'est dans ce groupe, et alors à chaque fois, effectivement, j'avais les larmes qui me venaient aux yeux, mais qui ne coulaient pas. Elles ont commencé à couler, au congrès charismatique de Rome à la Pentecôte 75. Le samedi de la Pentecôte, en entendant chanter en langue, et pourtant, contrairement à ce qui se passe généralement, c'était un peu discordant. Alors, les larmes sont venues, puis elles ont coulé. Bon. Alors, je n'attribue pas ça plus d'importance que ça n'en a, n'est-ce pas? Comme disait un religieux, ça fait partie de la panoplie. Bon, c'est bien. Mais enfin, tout de même, ça comptait. C'est le lundi qui a suivi que la question que posait pour moi la demande et la réception du don des langues a été résolue. Ceci se passait en mai 75, et dès octobre, il y avait des gens qui demandaient l'effusion d'esprit, qui demandaient la prière des frères pour recevoir l'effusion d'esprit. Et pour moi, l'effusion d'esprit, ça comportait un certain nombre de choses, et un certain nombre de choses que je ne voulais pas demander. Que je ne voulais pas demander, et pour deux raisons. La première, c'est parce que ça m'aurait coûté, parce que je craignais que ça m'entraîne trop loin. La seconde, c'est parce que si je recevais rien, j'aurais été très déçu. Et c'est seulement le lundi de la Pentecôte, lorsque s'est élevé un chant en langue après la messe, et en attendant, au moment où on attendait l'entrée du pape dans la basilique Saint-Pierre, c'est à ce moment-là que je priais, et puis en entendant ce chant en langue, j'ai dit: « Ah Seigneur, si c'était possible que ma voix se joigne à ces voix-là. » J'ai dit, qu'est-ce que je viens de demander là? Qu'est-ce que je viens de demander là? Mais quelques secondes, justement, et puis j'ai ouvert la bouche, et puis je me suis mis à chanter en langue, moi aussi. C'est pas bien. Et ça a résolu pour moi des tas de problèmes. Bon, je recommence à raconter mon histoire, n'est-ce pas? Mais notez tout de même que lorsque je l'ai reçu, il y avait des questions aussi, des questions qui se posaient, n'est-ce pas, qui se posaient pour moi. J'ai eu le sentiment très net qu'il m'était dit: ce que tu reçois là, tu le reçois, oui. Mais tu le reçois, tu vois ce que c'est maintenant. Bon, tu diras ce que c'est. C'est ça, parler en langue. J'ai été, à ma grande surprise d'ailleurs, extraordinairement conscient de tout ce qui se passait. J'en ai témoigné un mois après, revenu dans mon université, un professeur de philosophie qui avait animé un groupe philosophique me dit: « Ah, dites donc, nous voudrions avoir encore une réunion cette année de philosophes. Est-ce que vous n'avez pas un sujet à nous proposer ?» Oh, j'ai dit: « Si, bien sûr, le renouveau charismatique. » « Bravo » m'a-t-il dit. Bon. Alors, j'ai fait un exposé très universitaire sur le renouveau charismatique, l'histoire du renouveau charismatique, alors les questions historiques que ça posait, les questions philosophiques que ça posait. J'ai parlé naturellement du parler en langue. J'avais même enregistré, non pas mon parler en langue, mais le parler en langue de l'Assemblée. J'ai fait entendre, j'ai dit: « Voilà, c'est ça, n'est-ce pas ?» Et j'ai lu comme un document, un bref compte-rendu, enfin un bref, une brève relation de ce qui m'était arrivé, comme je l'avais vécu. Ça a passé à peu près intégralement dans mon livre depuis. J'ai pas dit que c'était de moi. Enfin, j'ai dit: voilà, j'ai un document de quelqu'un qui, dans ces conditions-là, a reçu l'effusion d'esprit. Voilà comment il l'a vécu. Voilà. Mais je considère comme beaucoup plus important que la réception en langue ce sentiment de la présence de Dieu que j'avais eu. Alors, ça non plus, il ne faut pas le majorer. Ça n'est qu'un sentiment. Mais je pense que c'est donné par Dieu. C'est ce que les spirituels appellent les consolations. Et la première fois que je l'avais eu, alors j'avais trop lu les spirituels, et je les avais mal lus, bien entendu. Je me disais: je sais que les consolations, il ne faut pas y attribuer trop d'importance, n'est-ce pas? Il faut aimer Dieu et non pas ses dons. Bon, c'est de la confiture qu'il vous met sur le pain. Effectivement, je crois que, y compris le parler en langue, n'est-ce pas, c'est des choses par lesquelles l'esprit vient au secours de notre faiblesse. Bon, ça manifeste surtout notre faiblesse. On doit en rendre grâce parce que, parce que l'Esprit Saint est venu au secours de notre faiblesse. Et il peut nous le retirer de même qu'il nous l'a donné. À un moment donné, c'est... Mais ce qu'il faut aimer, c'est le Seigneur, c'est pas ses dons.
Alors, est-ce que finalement, donc, du fait d'avoir reçu ces dons-là, vous ne vous sentez pas un peu comme un chrétien à part, un chrétien exceptionnel?
Eh bien, j'ai beaucoup de raisons de croire que je ne suis pas un chrétien exceptionnel. Bon, le vieil homme, eh bien, je m'attendais un peu, je l'avoue, lorsque j'espérais ces dons, car je les ai espérés pendant 30 ans, n'est-ce pas? J'espérais ces dons que tout le reste se ferait tout seul et que le vieil homme disparaîtrait comme par enchantement. Ben, je dois dire et je dois témoigner effectivement qu'il n'a pas disparu et qu'il y a des gens dans les gens qui n'ont pas reçu dans la langue le don des langues, le parler en langue, des gens qui me dépassent infiniment. J'ai connu dans mon livre, alors j'ai connu un saint incontestable. Ben, bon, mon ami Rosset qui est mort il y a quelques années, qui a fondé le foyer des sans-abri à Lyon. Bon, je pourrais en parler là aussi, ça pourrait être le sujet d'une autre émission, mais enfin, vous ne le ferez plus parler, malheureusement, il est mort il y a 2 ans. Qui est un homme auprès duquel je ne suis rien, n'est-ce pas? Bon, il ne parlait pas en langue, il avait dans sa prière, la Sainte Vierge jouait un rôle considérable qu'elle ne joue pas dans la mienne, n'est-ce pas? C'est un fait, et ça me pose toujours des questions que je n'ai pas résolues. Alors non, je ne suis pas un chrétien exceptionnel, certes, d'autant plus que par leur langue, vous savez, dans les groupes charismatiques, bon, j'allais dire tout le monde parle leur langue, pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai, ça pose des questions pour ceux qui n'y parlent pas. Bon, on en est là. Mais, bon, non, alors surtout pas, je n'ai pas de tentation de ce sujet.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une tendance, pendant chez les charismatiques, à se retrouver entre eux, donc à former comme des groupes à part dans l'Église?
Ah, il est certain que il y a une fraternité. Entre dès qu'on ça se sent quand on rencontre quelqu'un qui est passé par un groupe charismatique, même s'il porte pas de croix, même s'il n'a aucun signe extérieur, ça se sent, il y a tout de suite une fraternité qui naît. Vous savez, on s'appelle petit frère, petite sœur, on s'embrasse bien, c'est un lien très fort. Et quelquefois, lorsque pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, un groupe se dissout, ce qui arrive, ça laisse toujours, enfin, sentimentalement, ça peut être un drame, enfin, un déchirement. Donc, il y a un lien très fort, mais ça n'est surtout pas quelque chose de fermé. C'est un appel qui est lancé à tout le monde. Et les charismatiques, que la plupart des charismatiques que je connais, se sentent appelés soit au service de leurs frères, soit à évangéliser, ce qui est d'ailleurs une autre forme de service, devrait tout à leur rendre, soit des tas de choses. Moi, j'ai tâtonné un peu, n'est-ce pas, je dois dire, j'ai écrit ce livre parce que je croyais qu'il allait demander, qu'il allait, que j'allais y passer tout entier, n'est-ce pas. Enfin, j'ai dit, bon, bien, mais finalement, c'est pas ça. Bon, c'est pas ça, je me demande. Alors, pour l'instant, j'en reste là, au précepte de saint Paul, rester là où l'appel, où vous avez entendu l'appel. Bon, alors je continue à être professeur d'université, je fais du mieux que je peux mon métier, bon, ce qui est... ce qui ne paraît pas dépourvu d'intérêt.
Il y a certains sociologues qui ont dit que le mouvement charismatique serait venu à la fois d'une certaine déception à l'égard des réformes engagées dans l'Église depuis le Concile, et d'autre part aussi d'une espèce d'apaisement des mouvements de contestation qui s'étaient manifestés depuis les années 68. Qu'est-ce que vous pensez d'une affirmation comme ça? Qu'est-ce que ça vaut pour vous, une chose pareille?
Eh bien, je pense que les explications, enfin du moins, l'étude du contexte sociologique, historique, politique, de toutes choses est une chose intéressante et que effectivement il y a pour le renouveau charismatique comme pour tout le reste des conditions historiques, sociologiques, culturelles, etc. Dont il faut tenir compte, dont il faut prendre acte. Mais à ceux qui le font, j'ai envie de dire, vous savez la fameuse parole, n'est-ce pas, du cordonnier qui avait critiqué la chaussure dans un tableau, et le peintre qui voulait critiquer tout le reste, lui dire cordonnier, va pas plus loin que la chaussure. Si, ou alors on parle au nom d'une philosophie selon laquelle les choses n'ont d'existence que sociologique. Je veux dire que, il y a une autre face des choses, réduire soit à la psychologie, soit à la sociologie, enfin toutes les opérations de réduction sont... toutes les études dans ce sens sont valables dans la mesure où elles ne sont pas des opérations de réduction. Effectivement, c'est une question de foi. Si vous ne croyez ni à Dieu ni au Saint-Esprit, il est évident que il faut chercher autre chose. Je crois que le Saint-Esprit agit dans le renouveau charismatique et aussi dans beaucoup d'autres choses dans lesquelles on ne le voit pas. Car il agit obscurément, il agit secrètement aussi, et puis tout d'un coup, ça éclate et on s'aperçoit qu'il y était. On s'aperçoit, ceux qui ont foi en lui, et je dirais peut-être aussi ceux qui en ont l'expérience.
Mais est-ce que les charismatiques n'ont pas tendance justement à se regrouper ensemble pour prier, mais aussi du même coup peut-être à négliger l'engagement dans la cité ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'ils ont peu de goût. J'ai failli écrire, enfin, j'avais promis d'écrire un livre sur la prière acte politique. Ils ont tendance, en général, mais je crois que c'est une tendance saine et finalement chrétienne, à ne pas considérer les choses du point de vue du pouvoir. Ce qui me frappe dans les critiques qu'on adresse, pour nous, charismatiques et d'ailleurs un tas d'autres choses, n'est-ce pas, c'est que les gens se placent toujours au point de vue du pouvoir, c'est-à-dire qui a le pouvoir, comment s'emparer du pouvoir et comment l'exercer. Et le pouvoir, par le pouvoir, vous m'entendez bien, c'est le pouvoir de coercition avec armée, police et tout ce qui s'ensuit. Les charismatiques, je crois, ne sont pas tentés de s'emparer du pouvoir. Et je crois qu'ils hésiteraient même, ils hésitent même dans l'ensemble, il y a des exceptions, mais enfin, dans l'ensemble, ils ne sont pas très portés à s'intégrer à une entreprise de conquête du pouvoir, je veux dire un parti politique. Et ils ont tendance, lorsqu'ils entrent dans les syndicats, à les dépolitiser d'une certaine manière. Car il y en a qui font de l'action syndicale. Hein. Il y en a, je dirais, il y en a partout, les charismatiques. Mais ce que l'on constate au contraire, c'est un désir chez la plupart d'entre eux de servir leurs frères partout où ils peuvent le faire. S'ils sont dans leurs entreprises dans lesquelles ils sont et par conséquent dans leurs syndicats, servir les frères, mais alors ils sont plutôt portés vers des entreprises que certains appellent avec un peu de dédain des entreprises caritatives, hein, car là où effectivement il n'y a pas de tentation,
il n'y a pas de
désir de s'emparer du pouvoir. J'ai cité tout à l'heure mon ami Rosset, mon vénérable ami Gabriel Rosset, n'est-ce pas, et son foyer des sans-abri. Ou alors servir l'église, bien sûr. Alors, je connais un charismatique qui, très peu de temps après qu'il ait été trouvé, avait trouvé son évêque pour lui dire « Voyons, de quoi a besoin l'Église? Qu'est-ce que je peux faire dans l'Église ?»
Et qu'est-ce que lui a répondu l'évêque?
Eh bien, il lui a répondu « Voulez-vous être diacre ?» Alors non, ça ne pouvait pas se faire pour d'autres raisons. Il lui a dit en substance « Découvrez vous-même ce que vous pouvez faire. »
Précisément, on en vient à une autre critique, n'est-ce pas, qui est adressée souvent aux charismatiques, à savoir que, oui, ce sont des gens comme ça qui ont l'air bien pacifiques, mais qui, en réalité, pourraient finalement être le lieu d'une contestation de l'autorité de l'Église.
Dans ce que je connais, je ne vois rien de tel. Je ne vois rien de tel. Reprenons
l'objection au plein sens du terme, n'est-ce pas? Nous communiquons directement avec l'esprit, nous sommes animés par l'esprit, donc, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous avons à faire, n'est-ce pas, d'une autorité qui, elle, est absolument extérieure et tout à fait, disons, presque sociale, finalement?
Il se peut que dans tel ou tel groupe, dans tel ou tel secteur, il y ait des tendances de ce genre-là, c'est très possible.
C'est une tendance protestante, au fond.
Ah, eh bien, précisément, la question des rapports entre les protestants et les catholiques se pose à l'intérieur du renouveau charismatique. À l'intérieur ou à l'extérieur, comme vous voudrez, sinon, selon que vous prenez la définition du renouveau, n'est-ce pas ? Telle ou telle définition du renouveau. Mais ce qui les catholiques... charismatiques donc que je connais, non, ils en sentent même le besoin et on leur adresse le reproche exactement inverse, n'est-ce pas, celui quelquefois d'être des fils trop soumis parce que, dit-on, ils ont besoin d'être rassurés.
Mais c'est Guy, un auteur qui a écrit sur le charismatique, dit que c'est une soumission apparente.
Vous savez, il n'y a que l'épreuve qui dit si c'est une soumission apparente au réel. Il est certain que... dans l'ensemble, le renouveau charismatique a fait pèlerinage à Rome pour demander la bénédiction du pape, qu'il a d'ailleurs accordé, contrairement à ce que l'on a dit, sans réserve, avec des conseils, certes, mais que... qui allait de soi, qui allait de soi. N'oubliez pas la charité, hein. Bien sûr, ça, nous en sommes d'accord. Écoutez l'Église, assurément, parce que une des questions dans le renouveau charismatique, c'est celui du discernement. Au nombre des charismes, il y a le discernement des esprits. Bon, alors le discernement des esprits est exercé par... Donc, c'est un don. Bien, bien le faire, pour qu'il soit bien exercé, il faut qu'on discerne à l'avance quel sera celui qui exercera le discernement. Dans les groupes, effectivement, ça se fait, mais dans tous les groupes charismatiques que je connais, la dernière instance, c'est la voix de l'Église, et pour l'instant, il n'y en a guère d'autres que... ça ne serait plus entièrement, ça, c'est vrai. Mais enfin principalement, et de façon claire, c'est la voix des évêques, du pape, du concile, des conciles, la tradition de l'Église, et la Bible, bien entendu.
D'ailleurs, c'est une chose, moi, qui m'a un peu étonné dans le livre que vous avez écrit, Comment peut-on être charismatique, que souvent, vous semblez justement chercher cette confirmation par l'autorité de l'Église. Enfin, vous semblez heureux quand l'Église... Et alors, je me dis, mais comment un intellectuel, et en plus un intellectuel français, n'est-ce pas, peut-il comme ça chercher, tout à coup, à être, je dois dire, un peu confirmé dans ses convictions par l'autorité de l'Église? On a plutôt l'habitude du contraire.
La théologie de l'Église est évidemment une chose difficile, n'est-ce pas? Je pense que par l'Église, je suis relié avec la première Église et par la première Église avec Jésus-Christ. Aucune hésitation possible là-dessus, n'est-ce pas? Ce qui me paraît important, c'est d'être dans cette tradition qui n'est pas seulement, comme on le dit quelquefois, c'est une opinion personnelle que je vous exprime en ce moment, qui n'est pas seulement l'opinion d'une foi définie par des symboles, mais qui est aussi celle d'une immense prière qui a commencé là, qui a commencé à la Pentecôte et qui se continue, et plus que l'imposition, le fait que les pouvoirs sont transmis à l'évêque d'un évêque à l'autre par l'imposition des mains, il y a le fait qu'ils communient entre eux, qui sont en communion, et une communion, ça veut dire une communion de prière et une communion dans l'Eucharistie. Là, cette continuité de la communion dans l'Eucharistie me paraît très importante, et je prie Dieu qu'il m'y conserve.
J'oserais presque vous demander, M. Méa, comment peut-on ne pas être charismatique? Est-ce que c'est possible qu'un chrétien ne soit pas charismatique?
C'est une question de définition. Du moment qu'il a été baptisé, à plus forte raison confirmé, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ça ne se manifeste pas toujours extérieurement. Alors, les charismes, si on définit les charismes comme manifestation du Saint-Esprit, tous les chrétiens ne manifestent pas le Saint-Esprit, c'est un fait. Enfin, ou du moins, ça ne se voit pas. Alors, si vous restreignez le sens charismatique, alors effectivement, ça ne se voit. Ça ne se voit pas, ça se voit d'ailleurs quelquefois et souvent en dehors du renouveau charismatique actuel, qui n'est qu'un cas particulier dans les nombreuses apparitions, réapparitions, manifestations de l'esprit au cours des siècles dans l'histoire de l'Église.
Et quel est l'avenir de ce mouvement? Est-ce que c'est simplement un phénomène transitoire? Ou bien si vous pensez qu'il y a là quelque chose qui... un germe qui va se développer?
Alors là, il faudrait être prophète, et je ne crois pas avoir le don de prophétie, surtout en ce sens-là, n'est-ce pas? Je veux dire, celui de prédire l'avenir. Je pense que... J'espère, mais je ne peux rien dire de plus, qu'en effet, ce qu'on voit germer, ce qu'on voit grandir en ce moment, grandira encore, et que... eh bien, les domaines dans lesquels on est encore englué, dans la routine, dans les formules, vont être tout cela va être revivifié par cette conscience que l'on prend. Le Saint-Esprit y était, mais on n'en avait pas conscience, ou on en avait une conscience confuse. Par cette conscience du Saint-Esprit, je pense par exemple à la messe. Je dois dire que le renouveau charismatique m'a ramené, n'est-ce pas, avec ferveur à la célébration de l'Eucharistie. Mais je dois dire que c'est un terrible malaise par le décalage entre ce que ça devrait être et ce que c'est.
Alors, autrement dit, vous souhaitez que l'Église devienne davantage une maison de prière.
Et certes. Et je prie pour ça.
André Méa, je vous remercie.